Bonjour Joseph.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, sujet vraiment qui intéresse tout le monde là au local, on va parler de l'hôpital.
Bien d'accord.
Alors, qu'est-ce que tu es Joseph, toi, par rapport à cet hôpital? Qu'est-ce que
Alors,
tu fais?
Oui, moi je ne suis pas un hospitalier, je ne suis pas du personnel hospitalier, je suis un usager. C'est un peu comme définit l'association, on est une association des usagers de l'hôpital.
Oui.
Et en fait, on souhaite un peu que les usagers s'investissent de plus en plus dans cet avenir de l'hôpital parce que c'est important. Je pense que souvent le personnel défend ses droits dans l'hôpital et ils ont raison. Les élus interviennent quelquefois, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en revanche, on oublie toujours ce pilier des usagers qui est important parce que c'est la population et c'est elle qui est concernée par les différentes actions et à tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital.
Oui, il faut que tu continues.
Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a toujours... Alors, l'association, elle existe depuis 1998. Je n'étais pas là à l'époque, c'était Mireille Ponton. Mais... J'ai pris sa succession, mais en fait, notre principe, c'est de pouvoir définir un peu, défendre plutôt un hôpital qui soit un hôpital de proximité, qui rende des services de proximité à la population, au plus près d'où ils habitent.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs organismes, à la fois au local et à la fois au national,
oui.
pour tous ces usagers que nous sommes. Donc, il y a une commission des usagers, hein, tu m'as
oui.
dit ça. Et puis, il y a une coordination nationale des hôpitaux de proximité aussi.
Alors, c'est un
aussi.
Peu différent.
Alors, il y a tout ça, quand même.
C'est un peu différent.
Et toi, tu as différentes casquettes.
Oh, oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des casquettes d'instances de l'hôpital ou d'instances de la santé au niveau départemental. Et puis, il y a aussi l'association des usagers. D'abord, je développerai après.
Oui.
Mais il y a l'association des usagers qui est coordonnée, en fait, qui appartient à une coordination nationale des comités de défense, des hôpitaux et maternités de proximité.
Mmh.
Donc, voilà, c'est pour ça que, effectivement, on a une vision locale des choses et en même temps une vision plus globale nationale.
Alors, est-ce que, enfin, donc il y a une organisation en fait nationale.
Oui.
Hein, est-ce que ça se décline, chacun peut la décliner avec les instances locales, ou bien il y a un chapeau de, je sais pas comment dire, de comportement?
Non, il y a une coordination. La coordination a un conseil d'administration,
oui.
Mais le principe d'une coordination, ce n'est pas une fédération.
Oui.
C'est-à-dire que chaque comité est indépendant de la coordination et peut décider des actions qu'il doit mener.
Oui.
C'est important parce que finalement, on a quelquefois quelques nuances, entre autres dans certains comités sur le 100% sécu, par exemple. Mais bon, ça, c'est un des exemples les plus importants, mais encore qu'on revienne un peu sur les choses. Mais on essaye, avec cette coordination, de trouver ce qui nous rassemble le plus dans les comités, de façon à ce que, au niveau national, cette coordination, qui est reconnue d'ailleurs, qui est un agrément pour le ministère,
oui.
Pour avoir des représentants dans les hôpitaux. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une correspondance un petit peu de chaque comité, enfin des aides de chaque comité, enfin qui participe à un mouvement plus national. Par exemple, on a créé un document qui s'appelle pour un hôpital de proximité, qu'est-ce qu'il faut en particulier. Et donc on essaie de le décliner, et à chaque rencontre qu'on a ensemble tous les ans, on essaie d'affiner certains thèmes dans les machins. Oui,
mais parce que de toute façon, d'un hôpital à l'autre, d'une région à l'autre, je suppose qu'il y a des problèmes qui sont différents en plus.
Exactement.
Donc il faut bien décliner les choses.
Voilà, et ça permet de comprendre qu'effectivement, les problèmes qu'on vit localement, on les vit aussi nationalement, et qu'il y a une communauté de lutte.
Parce que manifestement, il y a quand même un manque au niveau national, puisqu'on se retrouve avec des carences quand même. Il y a des manques d'effectifs.
Ah bah complètement, oui, voilà. Complètement. C'est
à la fois des médecins généralistes qu'on peut aller voir, mais à la fois des hôpitaux, à la fois donc problème sur les urgences, problème, enfin voilà, c'est-à-dire c'est un problème sur la santé qui évidemment impacte l'hôpital, mais c'est grave parce que c'est maintenant quand même sacrément inscrit dans notre histoire.
Oui, ben c'est pour ça que effectivement on s'appelle l'usager de l'hôpital d'Aubenas, mais en fait on s'occupe de tous les problèmes de santé de la population dans le territoire. Oui. Effectivement, on a par exemple, on se soucie par exemple du nombre de médecins qui peut exister au niveau du territoire et des problèmes des gens qui n'ont pas de médecin traitant. Nous avons fait il y a 2 ans une enquête. Avec 400 réponses, qui montraient que 20% de la population était sans médecin traitant. Et le médecin traitant, c'est le gouvernement qui le veut, hein, normalement. Oui. Il faut qu'on ait un médecin affilié. Oui. Et ben non, il n'est pas capable de nous filer, quoi.
Oui, on a un droit à la santé, quoi.
Voilà, hein, c'est comme un droit à la santé, t'as raison. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, on essaye avec ça de travailler. Alors après, on a travaillé parce qu'il y avait aussi les problèmes des spécialistes, encore pire. Alors, au niveau de l'hôpital, c'est vrai qu'on a eu des situations en 2023 un peu graves avec la fermeture des urgences la nuit. Et ça nous a beaucoup inquiétés, justement, parce que la population était déjà très démunie au niveau externe, enfin, au niveau de son vécu externe. Et qu'en plus, on ne puisse plus avoir accès aux urgences, c'était compliqué, ça posait des problèmes. Ouais. Donc, je pense qu'il fallait... on est intervenu d'ailleurs, enfin, on a écrit des choses là-dessus en disant qu'on est inquiet et qu'on souhaitait un petit peu que ça se résolve au mieux. Ça s'est résolu. C'est vrai qu'on a connu une année 2024 aux urgences qui n'était pas trop mal, où il n'y a pas eu de fermeture. Enfin, elle n'est pas trop mal. Il n'y a pas eu de fermeture. C'est déjà très bien. Et les gens étaient accueillis, mais il faut savoir que depuis quelques années, depuis 4 ans, je crois, 4-5 ans, non, c'était après le Covid, je crois, on avait obligation de passer par le 15, alors qu'avant, on y allait directement.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est encore un frein à la santé, je pense. Bien Et sûr. Ça, c'est important.
Oui, oui. Et tu as l'impression que... Enfin, alors, je vais te poser cette question-là. Tu vas me dire, mais enfin, quand même, comment tu poses tes questions. Est-ce que tu as l'impression que l'association, là, elle a un impact positif, elle est entendue, quoi. Est-ce qu'elle est entendue ou...
Elle est écoutée, entendue, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a un poids dans la mesure où elle existe depuis très longtemps, qu'elle a réussi aussi à obtenir des choses, parce que il faut savoir que depuis la création de l'association, enfin sur la vie de l'association, il y a eu plusieurs services qui ont fermé dans l'hôpital, par exemple la réanimation adulte, d'autres services ont fermé et on a pesé là-dessus. Et par exemple, il y avait une menace sur une fermeture du service de néonatalogie.
Ça, c'était quoi, 2012? C'était par là, non?
Ouais. Hein 2012, non, même peut-être un peu après. Avant, non c'était un peu avant le Covid, je crois bien. Juste un peu avant le
ah
Covid.
Bon Il y avait eu déjà une alerte.
Mais il y avait déjà eu, oui. Oui. Mais on avait obtenu, et là-dessus, effectivement, on avait travaillé là-dessus. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne voulait pas céder parce que c'était important pour la population d'avoir un service comme ça. Vous comprenez, un petit bébé qui a quelques jours, être obligé d'aller jusqu'à Saint-Étienne ou à Grenoble quand il y a des gros problèmes, s'il peut être soigné au plus près, et on a les capacités. On sait qu'on a la capacité, il y a des médecins, il y a des infirmières qui sont très, très
compétentes.
Très compétentes. Et je pense que notre idée, c'était de garder cette proximité-là. Et c'est vrai que sur cette histoire de la néonatologie, on n'a jamais cédé et on a toujours réussi à gagner. À chaque fois qu'il y a eu une enquête, enfin, ou un danger que ce service ferme, on s'est mobilisé devant l'hôpital. Il y a eu des milliers de signatures. Des milliers de signatures, parce que les gens avaient peur de ça, quoi. Ils pensaient qu'ils avaient un peu peur.
Moi, je m'en souviens parce que, effectivement, oui, j'ai participé aux mobilisations, quoi.
Voilà.
Parce que c'est vrai que c'est important de garder une néonatalité ici.
Oui, oui, c'est vrai. Par exemple, je m'excuse, je finis par un truc, c'est que la réanimation adulte avait fermé et curieusement, la crise de Covid a montré que c'était nécessaire d'avoir une réanimation à l'hôpital et elle a été réinstallée.
Ouais, d'accord.
Récemment.
Alors, le nouveau directeur de l'hôpital, puisqu'il y a un nouveau directeur, il communique, et puis il y a les élus aussi, Amran, etc., qui communiquent beaucoup en disant qu'ils font plein de choses. Hein.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est complètement vrai? On va vous laisser l'apprécier. Hein,
on peut toujours communiquer. Ceci dit, on s'aperçoit que la situation depuis plusieurs années n'a pas changé, et que même s'il y a des médecins qui sont recrutés dans l'hôpital, et tant mieux.
Ouais.
Tant mieux, parce que ça permet d'aider un peu à prendre en charge les gens.
Ouais.
On s'aperçoit qu'en tout cas, au niveau libéral, au niveau de la médecine libérale, ça s'améliore pas. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de médecin traitant. Donc cette enquête dont je parlais tout à l'heure, on en était à 20% de la population qui n'avait pas de médecin traitant. Et c'est plus important qu'au niveau national, par exemple. Et on en parlera après parce qu'il y a une proposition de loi qui a été faite et qui travaille sur cette question-là et c'est important.
Alors, il est dit 22 postes qui ont été... 22 médecins qui sont pris. Mais alors, ces médecins, est-ce qu'ils sont vraiment spécialisés ou est-ce que, alors, moi, j'ai compris que c'était des généralistes à spécialité.
Pour certaines spécialités, pas pour toutes.
Ouais.
Mais c'est vrai que, par exemple, en cardiologie, le service a fermé pendant plus d'un an. Il a rouvert avec un médecin généraliste à option à spécialisation cardiologie, mais c'est pas un vrai médecin cardiologue.
Oui, c'est pas un vrai spécialiste.
Voilà. Hein, voilà.
On est bien d'accord. Bon, alors, dans les actions que vous avez prévues,
voilà.
Je crois qu'il y a quelque chose cette semaine. En
oui.
plus, hein. Donc, il y a une conférence gesticulée.
D'accord. Alors voilà, c'est ce qu'on souhaitait un petit peu. Pour parler en général de toutes les problématiques du soin, on peut le faire sous forme d'une conférence simple, normale, comme ça, mais on pensait que sous la forme d'une conférence gesticulée, d'un spectacle, on pouvait essayer d'animer les choses un peu différemment et d'une manière plus ludique et en même temps sans rechigner sur le débat, quoi, sur le vrai débat. C'est vrai que le principe, c'est comment se faire soigner, quel rapport entre soignant et soigné, quelles conséquences concrètes de la politique dévastatrice des gouvernements successifs. C'est des choses qu'on va aborder dans cette conférence-là. Donc cette conférence, elle a lieu à la Bobine, jeudi 10 avril, à partir de 18h.
À la Bobine.
À la Bobine. Voilà.
En dessous de l'Irette là-bas. Hein,
voilà, c'est
pour
ça.
Pour les gens qui ne savent pas où c'est vraiment.
Ouais, c'est en dessous
Aubena,
de l'Irette.
Ouais. Juste en dessous de l'Irette.
Voilà. Voilà.
Et un lieu très agréable, un lieu. Voilà.
Ouais, parce qu'en fait, on cherchait, comme c'était une conférence, c'est un spectacle, on cherchait une scène.
Oui.
Et donc, en fait, c'était un peu la petite scène qui nous était utile par rapport à ce qu'on avait. Et on a discuté avec les dirigeants de la Bobine et on a tombé d'accord sur une belle organisation, quoi.
Oui, super. Donc, venez jeudi soir à partir de 18h. C'est 18h ?
Elle va démarrer à partir de 18h, mais je pense qu'on peut venir avant. Hein.
D'accord.
Parce que de toute façon, le bar sera ouvert. Donc,
D'accord. La personne qui fait ça, c'est Eric Davero, c'est ça?
Davera.
Davera.
Ah. Eric Davera.
Ouais.
C'est un ancien cadre hospitalier du côté de Limoges, au CHU de Limoges. Et il a un peu cette notion. À travers ça, il explique son expérience de professionnel et la manière dont il vit le soin après.
Oui. D'accord. Donc en fait, ça peut être très intéressant parce que
Ouais.
y a la conférence et après les gens vont pouvoir avoir un débat, enfin,
Bien
hein.
sûr, bah le but c'est ça. C'est le but, c'est après d'échanger parce que je pense que Eric c'est pas le genre il va pas faire sa conférence comme ça pour le plaisir puis après je m'en vais. C'est au contraire échanger avec les gens. Il cherche tout le temps à échanger avec les gens pour comprendre un peu
Ouais.
les préoccupations et comment les choses s'arrangent, quoi.
Oui. Donc après cette conférence gesticulée, il va y avoir aussi une pétition, hein?
Oui, alors elle a déjà démarré.
Vas-y.
Elle a déjà démarré. En fait, il existe une proposition de loi. Bonjour. Il existe une proposition de loi qui vient commencé d'être discutée à l'Assemblée la semaine dernière. Et ça s'appelle la proposition de loi. Elle est transpartisane d'ailleurs. Elle regroupe l'ensemble des groupes politiques. Hein. Elle a été présentée par tous les groupes politiques, sauf le Rassemblement national.
Oui.
Mais
Il a pas été convié à participer
oui, c'est un choix,
ou
je
il
crois.
s'est il
Non,
s'est
c'est
mis
un
à
choix.
part il s'est
C'est un
mis à part
choix. Ouais.
de
Et donc,
lui-même.
en fait, c'est une proposition transpartisane qui vise à traiter le problème des déserts médicaux. Parce qu'effectivement, tout le monde a des problèmes pour avoir des médecins, j'en parlais tout à l'heure, et des médecins traitants. Même moi, je n'ai pas de médecin traitant.
Ouais, ouais,
Depuis
ouais.
le 1er janvier, j'en ai plus. Et donc, on essaye de. Alors, il y a cette proposition de loi qui était évoquée et qui a mis longtemps. Ça fait 2 ans qu'elle a été
Oui.
travaillée. Et donc, elle a été présentée donc la semaine dernière, au moins dans son article 1. Il y a plusieurs articles. Et en fait, l'article qui a été discuté la semaine dernière, c'était l'article 1 qui effectivement restreint la liberté d'installation des médecins, qui met les freins à l'installation des médecins, parce que bien en France et en Europe, un consensus normalement où les médecins doivent pouvoir s'installer où ils veulent. C'est comme ça fait
Oui.
partie de la tradition et de l'histoire. Mais en fait, la situation est tellement délicate pour toute la population. On sait qu'il y a plusieurs millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Je crois que c'est 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant au niveau national. Donc, on n'a jamais connu ça.
Et 40% en Ardèche.
Alors, tu voulais dire quoi, Sophie?
Oui, je faisais une petite incursion pour dire que Éric Davera, justement, sera dans l'onde curieuse de jeudi. Donc, le conférencier gesticulateur. Il sera dans l'onde curieuse de jeudi midi avec vous
Joseph Matou.
ouais, pour en parler pour parler de cette conférence. Voilà, c'était mon
D'accord.
incursion.
Et donc,
En
je
fait,
disais que
il
cette
y a quelque chose que
proposition.
je n'ai pas tout à fait compris, Joseph. Alors,
Je répète parce que je n'ai pas
non,
fini.
je vais
Donc, en fait, c'est une
juste attends
proposition.
2 secondes.
Oui.
Parce que moi, j'ai commencé par te parler de pétition. Et toi, tu es parti sur cette loi transpartisane.
J'en viens.
D'accord.
Parce que c'est le sujet de cette pétition.
D'accord.
Cette proposition de loi, donc, qui est venue des députés, hein, c'est pas, même le gouvernement a freiné de tous
Oui, les quatre fers.
les cas de fer pour qu'elle passe pas. Et en fait, elle visait à travailler sur les questions des déserts médicaux. Donc, pour essayer de développer des propositions pour limiter ces déserts médicaux et favoriser la prise en charge de la population. Donc, c'est restreindre la liberté d'installation. On sait qu'il y a à peu près 11% du territoire où il y a beaucoup il y a plus de médecins que globalement
Oui.
sur l'ensemble du territoire.
Alors,
Faut pas.
tu m'avais dit que c'était
Plutôt
complètement sud, dans
dans
le
le
sud.
midi, quoi.
Oui.
C'est plutôt. Et pas chez nous, mais vraiment dans le midi, quoi.
Oui.
Donc. On a des possibilités. Alors, la proposition de loi qui restreint la liberté d'installation, elle demande à ce que les médecins ne s'installent pas dans cette région dite surpeuplée, de façon à, sauf si un médecin s'en va. Enfin, il y a des conditions particulières pour que, effectivement, on régule un peu tout ça et que les médecins qui sortent des études, ben, ils puissent aller ailleurs, là où il y en a besoin.
Alors évidemment, quand même, notre député de proximité, Brun, est d'accord avec tout ce que tu expliques.
Ah, je sais pas s'il est d'accord, mais en tout cas, il l'a pas voté.
Ah oui, aïe, 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 aïe,
Ça,
aïe,
c'est
aïe,
clair,
aïe.
hein.
Ah,
Il l'a pas voté du tout.
donc.
Et bah non, non, parce qu'en fait, l'article 1, donc ce fameux article qui restreint la liberté d'installation,
Oui.
a été voté C'est quand même, je pense que je voudrais prendre le temps si j'ai un peu quelques secondes.
Il nous reste 6 minutes. Hein,
d'accord, oui,
pour
oui.
Que tu saches.
Mais effectivement, je pense que c'est important parce que c'est la première fois qu'il y a une loi sur la pli restreint de la liberté d'installation en France. C'est un d'ailleurs.
C'est une déflagration.
C'est une vraie déflagration parce que tous les syndicats de médecins, sauf le syndicat de la médecine générale, qui est plutôt pour ces orientations-là, qui se sont vent debout contre cette loi. Oui. Donc, elle est passée avec certains députés macronistes, il faut le dire, et puis députés du nouveau Front populaire, et pas le Front national, et pas les Républicains.
Ouais, d'accord. Voilà. Alors donc, en fait, quand même, ça
mais elle est passée. Ça en va première lecture, elle est passée.
Ça va vers le mieux, quand même.
Oui, hein? Si ça... Après, il y a tout le processus parlementaire. Elle n'est pas encore mise en œuvre. La deuxième proposition, c'est d'instaurer des gardes médicales pour les médecins libéraux afin de réduire l'affluence aux urgences. On dit que les urgences sont surchargées par un tas de trucs qui ne servent pas grand-chose, enfin qui ne devraient pas être dans les services d'urgence. Et on pense que là, effectivement, il y a besoin
d'avoir des médecins de garde.
D'avoir des gardes de médecins libéraux, après tout. Ouais. Pourquoi ils ne s'organiseraient pas pour ça?
Et tu disais que ça existait il y a...
Ça, alors, moi, j'ai connu ça. Bon, j'ai un certain âge et j'ai connu ça dans les années... avant les années 80 même, jusqu'aux années 90, parce que c'est Raffarin qui a, le Premier ministre, qui a supprimé cette obligation de garde.
Il était, oui. Il était Raffarin, vous voyez qui c'était. Hein.
Voilà. Bon, voilà. Et donc, la troisième proposition, c'est de développer des contrats de service public pour les étudiants, de façon à ce qu'on puisse, avec des moyens plus importants, parce que, effectivement, il n'y a pas de... il existe des contrats de service public qui ne sont pas assez motivants pour les étudiants et on propose d'augmenter. Et cette loi propose d'augmenter les moyens, enfin donner à ces aux étudiants des allocations d'études de façon à pouvoir encourager cette forme.
Donc, et favoriser les études, mais tu vas même plus loin parce que tu expliquais qu'il y avait une proposition de campus sur notre hôpital.
Hein, oui,
ça a à voir avec ça, même si c'est pas dans la loi, mais ça a à voir avec ça.
C'était avant la loi, puisque ça a travaillé. Ça fait 2 ans, je crois, qu'il a travaillé au niveau de l'hôpital. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant. Maintenant, ça se discute. Hein. Oui. Il y en a qui pensent que c'est pas utile, mais je pense que ça se discute parce que les études de médecine, ça demande beaucoup d'investissement la première année, et le fait que les étudiants soient sortis de chez eux. Pendant la première année où ils ont beaucoup de choses à accumuler pour le fameux concours de première année, ça pouvait être intéressant de pouvoir les avoir le plus près possible dans les mêmes conditions que les étudiants à Lyon. Hein.
Parce que ce que tu expliques, donc, ça serait ces étudiants seraient sur le campus là.
Oui.
Le campus. Alors, qui serait.
C'est à Aubenas, oui.
Qui serait c'est, l'hôpital.
Hein. Ils sont en train de travailler sur un local au niveau de l'hôpital même.
Oui.
Hein. Ouais.
D'accord.
Donc voilà.
Et puis après, tu disais qu'il y avait encore une dernière chose.
Alors, c'est favoriser les centres de santé.
Oui.
Parce que je pense que il existe une médecine. Enfin, la médecine libérale a installé des maisons de santé. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des élus qui s'en vantent énormément. Sauf que il y a tout un tas de. On donne beaucoup de moyens pour ces maisons de santé. Et les centres de santé, c'est important parce que.
Alors, maisons de santé d'une part, voilà. Et centres de santé d'autre part.
Les centres de santé, c'est différent.
Et toi, tu dis que c'est pas la même chose. Hein, voilà.
Pas du tout la même chose. Les maisons de santé, ce sont les médecins libéraux qui se mettent ensemble.
Oui.
Bon, avec la problématique des dépassements d'honoraires qui sont permis.
Ah oui.
Alors que dans les centres de santé, ce sont des médecins salariés qui n'ont, il n'y a pas de dépassement d'honoraires et en plus on ne paye que le tiers payant. C'est-à-dire qu'on n'a pas, alors que dans une maison de santé, on doit payer toute la consultation. Quoi.
Les deux sont aidés par l'État, les maisons de santé et les centres de santé.
Oui, mais plus facilement les maisons de santé, malheureusement.
Ah oui, voilà c'était ce que je voulais te faire
et
dire.
C'est ce que la région s'en vante énormément.
Oui.
Alors le problème, c'est que dans les maisons de santé, ça dépend de la bonne volonté des médecins libéraux. C'est-à-dire que s'ils ont décidé de s'installer ailleurs, et d'ailleurs, il y a une concurrence entre les médecins libéraux là-dessus, sur les maisons de santé, avec les communes, absolument effroyable. Effroyable parce que, en fait, ils marchandent leur venue dans un endroit.
Alors, ce que tu expliquais, c'est qu'on manque de médecins peut-être un petit peu aussi, parce que, en fait, maintenant, un médecin, il ne travaille pas. plus forcément exactement comme le faisaient les médecins à l'ancienne.
Bah oui, c'est vrai, à l'ancienne, on a connu des médecins qui avaient qui travaillaient 14 heures par jour, qui circulaient un peu partout dans les territoires. Ils commençaient à 8 heures, ils finissaient à 22 heures, enfin c'est ce qu'ils disaient un peu. Maintenant, je pense que la profession a changé, et c'est pour ça que le salariat est intéressant, parce que maintenant, les nouveaux médecins, bah, ils ont envie de travailler à la fois en groupe, ça c'est important, et en même temps de travailler, de préserver aussi leur vie commune, leur vie personnelle, parce que c'est un métier prenant. Et alors bon, faut pas le prendre mal ce que je vais dire, mais il est très féminisé, enfin c'est aussi un des critères qui fait qu'elles ont besoin de la vie de famille et de l'organiser mieux, leur vie de famille.
Donc tu disais...
Je sais, c'est un peu...
Tu disais, c'est 1,6,
oui,
il faut 1,6 médecin pour un poste de 1 médecin autrefois.
Ah oui, oui, si un médecin s'en va actuellement, on sait, il y a des études qui ont été faites, qui montrent qu'il faut pratiquement l'équivalent de 1,6 médecin. Parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes créneaux horaires, et que voilà, ça demande un peu...
Alors, quelques secondes seulement, ça va être les 80 ans de la Sécu.
Oui.
Donc il va y avoir évidemment plein de choses qui vont se passer, voilà. Et puis tu voulais dire aussi que le budget de la sécurité sociale, il est pas à la hauteur.
C'est clair, oui. Bah ça fait des années, hein. Ça fait des années malheureusement qu'il n'est pas au niveau. Mais là c'est encore pire parce que avec la période d'inflation qu'on a connue dans les deux ans, les hôpitaux s'en sortent pas du tout et les taux d'augmentation des budgets qui ont été votés. C'est de l'ordre de 3%, alors que même la Fédération hospitalière de France, qui n'est pas un organisme révolutionnaire, hein, c'est ce qui regroupe les hôpitaux publics en France, les directions des hôpitaux publics, dit qu'il aurait fallu 7%. Ouais. Et les syndicats aussi disent qu'il fallait 7%.
Alors qu'il n'y a que 3%.
Alors qu'on est à 3%, 3,6. Hein. Ouais. Voilà.
Voilà. Bon, merci beaucoup, Joseph. Alors, on est obligé de clore, alors
d'accord.
Que tu auras encore plein de choses à dire. Mais bon.
D'accord.
À bientôt.
Merci bien. À jeudi.